Vous écoutez RTL.
8h18, ne perdons pas de temps. Emmanuel Macron, nous donnons directement la parole aux auditeurs d'RTL qui ce matin souhaitent vous poser des questions. Bonjour Gérard.
Bonjour Monsieur Calvi.
Vous êtes notaire et vous nous appelez du département de la Sarthe et du Mans.
Oui, tout à fait. Je suis notaire dans le domaine rural et bonjour Monsieur le Ministre, et je souhaitais vous poser une question. Hier, j'étais parmi les 50 manifestants du droit opposé donc à votre réforme. Ma question est donc la suivante. Un tel mouvement d'opposition vous fera-t-il ou vous incitera-t-il à une meilleure concertation tant avec les professionnels qu'avec la chancellerie, ou tenterez-vous malgré tout de faire passer votre projet par la force? Je pense notamment à l'article 49.
Le ministre vous répond, je précise que vous étiez 50 000 hein, et non 50. Hein.
Oui, 50 000, excusez-moi, voilà, heureusement.
Je renforce le poids de la manif, Emmanuel Macron.
Oui, bonjour monsieur. Écoutez, d'abord, je regrette que ça ne se soit peut-être pas suffisamment vu, mais il y a eu un travail de concertation, parce que j'ai vu vos représentants à plusieurs reprises dans mon bureau, et je les ai vus à plusieurs reprises aussi à la chancellerie avec la garde des Sceaux. Et le travail, dès mon arrivée, il s'est mené dans la concertation avec la garde des Sceaux, et c'est un travail conjoint que nous avons mené. Il est conjoint et se traduit dans les faits, puisque la garde des Sceaux l'a rappelé hier, en rien le projet que nous portons ne menace la sécurité juridique du pays. En rien le projet que nous portons ne menace le maillage territorial et l'accès aux droits de nos concitoyens. Et je crois que c'est là l'essentiel. Maintenant, il y a un travail de modernisation, d'amélioration du fonctionnement de ces professions que nous voulons porter sur trois points. Le premier, c'est aider l'ouverture de ces professions. Alors non pas en libéralisant, en ouvrant tout. Il y a dans la loi un processus très régulé dont la garde des Sceaux est garante in fine en termes d'installation, mais il permet de manière plus juste, plus méritocratique aux jeunes qui ont le diplôme, qui ont les qualifications, qui ont l'honorabilité de pouvoir ouvrir des offices, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Je précise qu'on a eu beaucoup de questions de notaires, de clercs de notaires et d'avocats hein, sur le site RTL.fr, et que notamment, Laura nous a appelé en nous disant « La liberté d'installation des notaires sera-t-elle accordée sur des critères purement objectifs ?» Je vous pose la question puisque vous êtes en train d'y répondre. « Je suis diplômé notaire, j'ai une expérience de 8 ans, je souhaite m'installer et je compte sur vous. »
Oui, elle a raison de compter sur nous. Parce que aujourd'hui, les critères ne sont pas toujours objectifs.
Si on satisfait Laura, on contrarie Gérard apparemment.
Hein. Non, parce que je veux rassurer Gérard sur ce sujet. La loi prévoit, telle qu'elle est aujourd'hui rédigée, et nous l'améliorerons sans doute dans le débat parlementaire, elle prévoit que cette liberté d'installation des nouveaux entrants soit régulée. C'est-à-dire que, de manière objective, on regarde sur le territoire là où il y a des équilibres et là où il y a des besoins. Quand il y a des besoins, il peut y avoir de nouveaux offices. Et que l'équilibre des territoires et que l'équilibre économique des professionnels en place soit préservé. Ensuite, la loi prévoit que cela se fasse à bon rythme. Il n'y aura pas un afflux massif de plusieurs centaines de notaires autour de l'office de Gérard. Mmh. Et donc, il y a toutes les garanties pour que cela se fasse bien. Mais en même temps, vous comprendrez que dans le pays où nous sommes, quand on a un diplôme, quand on a l'expérience, quand on a l'envie d'entreprendre, qu'on est un professionnel reconnu, avec l'honorabilité garantie par la garde des Sceaux, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas ouvrir d'office quand c'est possible. Mais je voudrais juste, par rapport au point de Gérard, dire aussi deux choses. Qu'est-ce que nous proposons pour le notariat? Que les tarifs reflètent mieux les coûts réels. Et donc là-dessus, on gardera
les tarifs. Ce sont des taxes. Tous les notaires passent le temps à nous le dire.
Alors, ça n'est pas vrai. Ça ne sont
c'est
pas
c'est
que
vous,
des taxes.
En gros, les taxes, c'est ça vous.
Oui, mais c'est toujours la faute de l'autre. Mais ce sont aussi des taxes. Vous avez tout à fait raison. Il y a les droits de mutation, etc. Je ne l'ai jamais caché ce point. Et d'ailleurs, il est transparent pour les concitoyens. Mais il y a aussi dans la partie de ce que vous payez, quelque chose qui va au notaire, les tarifs n'ont pas été revus depuis 1978. Et donc, il est normal que ces tarifs reflètent mieux les coûts, et nous le ferons de manière intelligente, et là aussi, proportionnée. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est que les professions puissent mieux s'organiser entre elles, et nous proposons, entre professionnels, d'ouvrir le capital et d'avoir des structures qui permettent l'interprofessionnalité beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc c'est un travail de modernisation, pas de déstabilisation. Et je veux finir là-dessus. Il y a une concertation,
s'il vous plaît.
Il y a une concertation depuis le début. J'ai passé ma soirée hier avec des professionnels du droit qui voulaient débattre. J'y suis allé, il y a eu une opposition, il y a eu une concertation, il y a eu des échanges et je suis toujours ouvert à l'échange. Mais entre le blocage complet, l'immobilisme et la brutalité, il y a la méthode que j'ai voulu adopter avec la garde des Sceaux, qui est celle de la concertation pour un meilleur système.
On a beaucoup d'appels, je vais vous demander d'être un petit peu plus concis, même si votre réponse en effet était complète pour Gérard, que je remercie. Et on donne la parole maintenant à Richard qui nous téléphone de Vannes. Bonjour Richard, vous vouliez réagir sur le travail le dimanche. Quelle est votre question?
Oui, bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le Ministre. Ma question était, pensez-vous étendre le travail du dimanche à d'autres secteurs que le commerce? Je pensais notamment à l'industrie ou à d'autres services, éventuellement des services de l'État, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les gens qui travaillent ont des vies bien remplies et n'ont pas forcément assez de temps pour faire tout ce qu'ils ont à faire pendant la semaine.
Et on pourrait ajouter, Monsieur le Ministre, pourquoi pas les crèches pour les enfants des salariés, la poste et puis le centre des impôts, hein. Ça peut concerner les fonctionnaires aussi, l'ouverture le dimanche.
Mais l'ouverture du dimanche, elle concerne déjà beaucoup de fonctionnaires, vous savez. Dans les services sociaux, dans les transports, il y a énormément de fonctionnaires qui travaillent le dimanche, dans des services où c'est prévu. Dans les services de sécurité, transport et autres. Donc c'est déjà une réalité le travail du dimanche pour les fonctionnaires, je vous rassure. Les services culturels aussi,
industrie,
de plus en plus.
Industrie dans et usine, vous demandez,
dans
Richard.
Dans l'industrie et usine, Richard, c'est aussi parfois une réalité. Lorsque les accords l'ont prévu, il y a beaucoup d'entreprises dans l'industrie en flux continu qui produisent le dimanche. Ça existe déjà aujourd'hui. Le projet qui est porté, ce n'est pas de généraliser ce sujet, c'est de permettre plus d'ouverture de commerce en donnant la liberté aux maires et surtout, je veux revenir ici et le marteler, en donnant plus de droits aux salariés, puisque s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'ouverture dans le système que nous proposons. Pas d'accord, pas d'ouverture. Mais donc, le travail du dimanche, c'est déjà une réalité beaucoup plus partagée qu'on ne le croit.
Vous êtes très clair. En ce qui concerne les compensations que vous évoquiez tout à l'heure avec Jérôme Chapuis, est-ce que ça concernera aussi les entreprises? Est-ce que ça concerne vraiment tous les salariés, notamment les entreprises de moins de 20 salariés?
Oui, là-dessus, il faut être très clair. Ça concerne toutes les entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés. À l'heure où nous sommes en train de demander aux partenaires sociaux de réfléchir aux effets de seuil, je pense qu'il ne serait pas justifiable que nous-mêmes, dans les droits que nous accordons, nous en recréions. Et en l'espèce, je pense qu'il y a beaucoup de contournements qui peuvent exister. Pourquoi un salarié qui travaillerait dans un commerce avec 10 autres collègues n'aurait pas droit aux mêmes compensations qu'un camarade qui est à côté et qui travaille dans un commerce à 23? Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de seuil. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait en même temps la bonne adaptation au terrain, au secteur. Et c'est pourquoi nous renvoyons à l'accord et nous ne définissons pas par la loi le montant de la compensation.
Merci à notre auditeur. On donne la parole à Mehdi maintenant qui nous appelle de Valenciennes dans le Nord. Bonjour Mehdi.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Calvi.
Allez-y.
Donc, dans un premier temps, je tenais à féliciter Monsieur le Ministre Emmanuel Macron pour toutes les réformes qu'il engage, pour toutes les actions qu'il met au cours de tout, depuis son mandat. En fait, c'est le seul ministre qui nous donne vraiment de l'espoir et en qui tout le monde peut croire.
Alors, Emmanuel Macron est très content de vous entendre saluer son travail, mais moi, je veux bien que vous lui posiez votre question. Allons-y.
Bien sûr, alors, j'y suis pour ma question. Alors, je voulais savoir ce que va apporter la libéralisation du transport en autocar.
Voilà. Alors, c'est un domaine qui... Vous avez cité des chiffres vraiment invraisemblables. Enfin, invraisemblables, parfaitement vrais. Hein, mais je veux dire, je crois que c'est aux alentours de 110 000 hein, bloqués en France. Et on est en millions en Allemagne et en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que ça change pour les conducteurs de bus? Est-ce que ça va créer de l'emploi aussi?
Bonjour, monsieur. D'abord, merci. Parce que je n'ai pas de surinscription sur ma liste de soutien. Donc, ça fait toujours très plaisir d'avoir des mots doux le matin.
Je précise que Mehdi est conducteur de bus et qu'il entend devenir conducteur d'autocar.
Et donc, merci beaucoup. Alors, l'ouverture que nous proposons, c'est en effet de donner la possibilité d'ouvrir des lignes d'autocar sur le territoire pour pouvoir transporter les Françaises et les Français. D'abord, c'est plus d'égalité sur l'accès au territoire. Parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas de voiture particulière et ne peut pas se la payer, qui ne peut pas prendre le train, ne peut pas parfois voyager d'un point A à un point B pour aller chercher un emploi, pour aller voir un proche, pour aller pour un loisir, etc. Et donc je crois que c'est plus d'égalité d'accès au territoire. C'est toujours la même philosophie que je porte. Ensuite, vous l'avez dit, c'est un nouveau secteur d'activité qu'on veut développer. Et là, les chiffres sont en effet très éloquents. En France, en moyenne, c'est 110 000 voyageurs par an. En Grande-Bretagne, c'est plus de 20 millions. En Allemagne, c'est plus de 8 millions et c'est passé de 3 à 8 millions en 18 mois. Les Allemands ont fait cette réforme il y a 18 mois, c'est passé de 3 à 8 millions. Donc je pense qu'on a un potentiel de développement d'activité formidable. Là-dessus, je veux dire que nous sommes en France avec un sujet qui est la surcapacité du transport par la route. Et donc, il y a des restructurations très dures pour les salariés de ce secteur. Et moi, je veux au maximum qu'avec les professionnels du secteur, on puisse requalifier des Françaises et des Français qui conduisent aujourd'hui des camions pour qu'ils puissent conduire des autocars. Et donc, c'est des perspectives d'emploi, de création d'activités, de développement. C'est ça que nous portons. Et je pense que là, on créera des milliers d'emplois avec cette réforme, monsieur.
Mehdi, à sa réponse, juste une précision. Est-ce que vous relancez l'autocar pour fermer les lignes SNCF déficitaires? Un oui, un non?
Non, pas du tout. Nous serons très vigilants à ce point. D'ailleurs, les régions sur les transports infrarégionaux auront leur mot à dire sur les lignes régulées.
L'aéroport de Toulouse-Blagnac vendu aux Chinois, là aussi on a envie de vous interroger. Ce sera Dominique qui nous appelle de Toulouse, mais ce sera dans un instant Emmanuel Macron. Merci de rester avec nous.
RTL Matin.
Emmanuel Macron vous répond en direct sur RTL.
Bonjour Dominique.
Oui, bonjour monsieur.
Vous nous appelez de Toulouse en Haute-Garonne. Et évidemment, voilà. Ça concerne le fameux aéroport.
Et voilà. Donc, bonsoir, monsieur le ministre. Oui, une question simple, enfin deux questions. Pourquoi vendre à une société qui gagne de l'argent? Et deuxièmement, pourquoi vendre à un groupe sino-canadien? Donc, déjà, une entreprise canadienne, SNC-Lavalin, qui est interdite bancaire par la Banque mondiale jusqu'en 2023. Et deuxièmement, un groupe chinois dont les comptes sont dans les paradis fiscaux. Alors que votre gouvernement aujourd'hui fait la chasse à nous, aux Français, pour tous les exilés fiscaux.
Je résume en deux temps. Pourquoi vendre et pourquoi vendre notamment aux sino-canadiens, si je vous ai bien compris. Emmanuel Macron vous répond.
Bonjour monsieur. D'abord, nous ne vendons pas tout, et je vais être très précis là-dessus. L'aéroport, les pistes, les murs restent à nous. L'État est concédant et donc les lignes, la régulation du trafic reste à nous. Il y a un contrat économique de 5 ans qui reste à la main de l'État. Aucune ligne ne peut être ouverte sans que la Direction Générale de l'Aviation Civile ne l'autorise. Donc qu'est-ce que nous avons vendu? 49,9% de la société de gestion de l'aéroport. C'est ça la réalité. Donc c'est pas une grande privatisation et ça n'a rien à voir avec le sujet des autoroutes. C'est le premier point. Pourquoi on vend?
Parce que ça peut paraître contradictoire.
Non, pas du tout, parce que ça n'est pas la même chose. Mais parce que on ne vend pas l'aéroport. C'est-à-dire que la liberté tarifaire ne sera pas aux mains du consortium qui a racheté, parce que les travaux resteront à nos mains, les extensions, c'est les collectivités locales qui ont le terrain à côté qui en décideront, et parce que, encore une fois, les créations de lignes, l'équilibre économique, il est à nos mains. C'est la gestion de l'aéroport qui a été, ou la société de gestion qui a été ouverte à ce consortium.
Sur la qualité de vos acheteurs, alors, et même leur moralité qui est mise en cause par la question.
Ça, c'est le premier point. Pourquoi on vend? D'abord, on vend à un très bon prix. On a fait un appel d'offres ouvert avec un cahier des charges, et on vend donc un prix très attractif qui nous permet de réinvestir dans nos priorités. Cet argent, on l'utilise pour partie pour nous désendetter, pour partie pour réinvestir dans les entreprises françaises qui en ont besoin. Peugeot, Alstom, quand elles sont en situation difficile, et pour réinvestir sur nos priorités comme la transition énergétique. Donc nous avons besoin de cet argent pour le réinvestir sur nos priorités positives. Ensuite, à qui vend-on? Nous vendons à deux investisseurs chinois. Nous ne vendons pas à un Canadien. Le Canadien sera leur partenaire industriel, SNC-Lavalin. Vous avez raison, ils ont été condamnés par la Banque mondiale. Malheureusement, c'est le cas aussi de beaucoup de sociétés françaises. Mais SNC-Lavalin, je vous invite à regarder. Ils opèrent dans dizaines d'aéroports français. À Toulouse, ils opèrent un autre aéroport aujourd'hui. Donc, qu'on ne me fasse pas de faux procès sur ce sujet. Cette société, elle a été condamnée par la Banque mondiale pour des actes qui ont été faits hors du territoire français, comme ça arrive d'ailleurs à des sociétés françaises, et elle doit payer pour cela. Mais elle est déjà présente sur le territoire, dans beaucoup d'aéroports de proximité, et elle ne sera pas au capital. Quant aux acheteurs chinois, ce sont deux sociétés, enfin deux investisseurs. L'un d'entre eux achète d'ailleurs des Airbus, est connu d'Airbus, a des liens, et déjà d'ailleurs sur le site de Toulouse, 13 ans, et ces deux acheteurs, la structure d'acquisition, elle paiera tous ses impôts en France. C'est une condition que nous avons mise précisément dans les négociations finales. Et donc dans les négociations finales, nous avons demandé qu'il y ait une transparence fiscale absolue sur les conditions de paiement de ces impôts. Elles ont été garanties, elles le sont. Et ensuite que des droits, une minorité de blocage sur toutes les décisions stratégiques, de plans d'investissement, sur toutes les nuisances possibles, puissent être données aux mains des collectivités locales. Donc nous avons défendu les intérêts. Mais enfin, je veux finir sur un point qui est important. Parce que ce procès qu'on fait n'existerait pas si on avait vendu à une société française ou même à un investisseur allemand. Mais je vous invite collectivement à réfléchir. Monsieur, cher Dominique, vous habitez Toulouse. Peut-être même votre famille a des salariés qui travaillent à Airbus. 25% du marché d'Airbus est en Chine. On ne peut pas dire qu'il y a des bons Chinois pour acheter des avions et des mauvais Chinois pour investir en France. Nous, nous avons plus de 15 milliards investis en Chine. Les Chinois ont 4 milliards investis dans notre pays. Je suis désolé, mais la vision de la mondialisation, elle doit être cohérente. La mondialisation, elle est gagnante pour nous quand il s'agit d'Airbus. Les femmes et les hommes qui, à Toulouse, travaillent pour Airbus, ils ont besoin précisément qu'il y ait des acheteurs chinois, qu'il y ait des investisseurs chinois. Donc je vous garantis que l'État, constamment, préservera vos intérêts, préservera vos droits, mais de grâce, n'ayons pas une vision étriquée de la mondialisation, parce que cette vision, elle sera fausse.
Vous nous avez dit en début d'intervention que finalement, être de gauche, ça n'était pas être conservateur, c'est être capable de réformer, si je vous ai bien compris. Moi, je me souviens d'avoir entendu Manuel Valls nous dire « j'aime les entreprises ». Est-ce que vous pouvez dire, vous, aujourd'hui, « j'aime les socialistes et je suis de gauche » ?
Mais c'est bizarre que vous me posiez la question, parce qu'il faudrait que je sois dans l'auto-justification permanente. Oui. Je suis de gauche, sinon je ne serais pas là. Je suis convaincu, je porte une vision de la gauche et du socialisme, qui est aussi celle de ma génération, qui est celle de ma propre expérience personnelle, c'est-à-dire je crois à une gauche qui aime l'égalité des chances, qui veut redonner à chaque instant de la vie, pour les femmes et les hommes, une égalité précisément pour prendre des risques, qui protège pour permettre de s'émanciper. Je crois à la gauche de l'émancipation, parce que je crois que ce que les Françaises et les Français veulent avant tout, c'est qu'on leur donne les moyens de réussir. Ils veulent qu'on leur donne les moyens de tenter leur chance, d'entreprendre, de travailler, d'investir. Et donc moi j'aime la gauche qui redonne des chances à chacun des instants de la vie, par l'éducation, par la formation continue, mais aussi par l'accès à des droits réels, de prendre possession de leur vie.
Ça peut être une gauche qui n'augmentera pas les impôts pendant 2 ans, et vous nous en donnez la confirmation.
Vous êtes la proie d'idées fixes, comme dit Michel Audiard.
Oui, absolument.
Ce sujet,
j'aime bien vos références.
Ce sujet a été évoqué par le président de la République et par Michel Sapin. Vous avez raison. Vous savez, on n'augmente jamais les impôts par plaisir. Et donc, ce qu'on a dû faire,
on a dû le faire.
C'est vrai que c'est encore plus dur de faire des économies, mais on en fait beaucoup. Et Michel Sapin et Christian Eckert en portent beaucoup et ils se bagarrent tous les jours. Et donc, ce qui a été dit, c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts votés à partir du 1er janvier de l'année prochaine.
Merci Emmanuel Macron d'être venu répondre aux auditeurs d'RTL. Bonne journée à vous.